Laurent Géronimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la gestion taux et diversifié chez Swiss Life Banque Privée. On va parler avec vous de marché, hein, et de perspective. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'été, sur les taux notamment? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été significatives selon vous?
Ah oui, donc il y a eu d'une part les taux d'emprunt d'État italiens qui se sont violemment tendus. Donc c'était le rattrapage des inquiétudes par rapport à la dette. Ce rattrapage, nous l'avons eu sur les émergents. Donc ce qui s'est passé sur la Turquie était particulièrement violent. Également sur l'Argentine, on peut parler de l'effondrement de leur monnaie. Donc 45% de baisse de la livre turque en cotation par rapport au dollar et 55% du peso argentin par rapport au dollar. Donc le rattrapage de la dette. Et finalement, c'est 10 ans après l'anniversaire de Lehman, les origines de la crise sont toujours là. Et comme les banques centrales se retirent progressivement de leur politique monétaire accommodante, donc la Fed a déjà entamé une politique de resserrement de ses taux directeurs et la BCE va arrêter ses achats d'actifs à la fin de l'année, ben finalement le problème de la dette prend son ampleur et c'est finalement une des causes majeures.
Est-ce que justement sur ce sujet-là, de quelle dette on parle cette fois-ci? Puisque on entend de plus en plus parler de la dette privée, voire de dette privée cachée. Il y a même je dirais des sociétés d'analyse qui ont dit attention, les entreprises, il y a plein de dettes cachées. Les dettes publiques, on les connaît avec les États, mais les acteurs privés, qu'est-ce qui est important aujourd'hui de regarder?
Tout est toujours important quand on a une analyse globale. Donc il y a forcément la dette des États, puisque avec la réintégration de la dette de la SNCF, la France approche de 100% de dette publique par rapport au PIB. On communique souvent sur le déficit courant, donc le rapport recettes-dépenses de l'année en cours, avec l'histoire des 3% des accords de Maastricht, mais dans les accords de Maastricht, il y a également une limite de 60% de la dette publique par rapport au PIB. Et mécaniquement, aujourd'hui, tous les pays sont très très loin de cela. On parlait de l'Italie, on est à 130%. Le caractère, je dirais, de dette cachée, c'est ce qu'on appelle le hors-bilan, généralement. Donc, alors, dans le cas des États, ça peut être la retraite des fonctionnaires. Donc, on va parler de la réforme de retraite bientôt en France, c'est un sujet. Dans le cas des banques, c'est tout ce qui est hors bilan. On peut par exemple prendre le cas des grandes banques d'investissement. On a eu un moment des doutes sur la Deutsche Bank. Son hors bilan correspondait à 10 fois l'équivalent du PIB allemand. Donc, on se rend compte qu'il y a des sommes gigantesques en dehors de la communication globale, donc des engagements qu'ont des entreprises, notamment le secteur bancaire, les unes avec les autres ou avec des entreprises privées de taille très importante.
Oui, parce qu'on peut dire qu'après effectivement 10 années il y a 10 ans, on a parlé de ces sujets-là. Il y a eu beaucoup de réglementations, de régulations. Il y a même des acteurs bancaires notamment qui s'en sont plaints. Aujourd'hui, même s'il y a cette régulation, cela n'a pas empêché certains acteurs d'aller peut-être prendre trop de risques. On verra bien.
Mais en fait, c'est la faiblesse des rendements obligataires, en tout cas des espérances de rendement, qui ont poussé tous les investisseurs à prendre des risques. Donc évidemment, ceux du secteur bancaire, mais également, je dirais, des gestionnaires d'actifs, où il y a encore un an, on allait sur des émissions argentines à 100 ans en dollars, et ça gagnait 15%. Donc effectivement, il y a eu quelque part le soutien des banquiers centraux. Ces banquiers centraux se retirent progressivement, tout en contrôlant, en essayant de contrôler au mieux cette situation. Et visiblement, les épines ressortent aujourd'hui dans un contexte d'incertitude qui est animé par les négociations commerciales des États-Unis avec le reste du monde.
C'est vrai qu'on est en droit de se poser la question. Il y a 10 ans, c'était la crise des subprimes, hein, avec ces prêts immobiliers américains. On se dit aujourd'hui, enfin, d'où va venir la prochaine crise, effectivement, où elle est? Est-ce que c'est du côté de crypto-monnaies, parler des taux, mais est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de là où il y a le plus de risques finalement que cette peut-être arme la hausse des taux qui est quand même lente fasse son effet?
Alors, je dirais que les sources d'incertitude ne manquent pas. Vous avez en première source d'incertitude, effectivement, la pénalisation de ce qu'on a connu ces dernières années, la mondialisation, c'est-à-dire c'était la libre circulation des biens et des services et des personnes. Donc les négociations commerciales que nous observons aujourd'hui très musclées sont déjà une source d'incertitude. La deuxième source d'incertitude, c'est la géopolitique. Et on l'a bien vu, des alliances sont en train de se nouer, sont en train de changer. On l'a bien vu, les incertitudes, je parlais de la Turquie tout à l'heure, géopolitique entre deux membres de l'OTAN, États-Unis et Turquie, où il y a eu finalement sur un problème géopolitique des tensions commerciales très importantes. On a une troisième source d'incertitude, c'est la divergence des politiques monétaires de la Banque centrale américaine et de la Banque centrale européenne, puisque d'ici 15 jours, le taux directeur, le taux au jour le jour de la Banque américaine va être à 2,25% et celui de la BCE est toujours à 0%. Donc ça crée des dysfonctionnements mécaniquement. Et puis, je dirais enfin, une problématique de valorisation. Quand vous regardez la hausse ces dernières années des marchés boursiers, pour les États-Unis, ça a été concentré sur les valeurs technologiques avec un effet richesse indéniable. Et quand on regarde le CAC 40, pour ne citer que lui, la hausse est sur certaines valeurs, les valeurs du luxe. Et puis le reste des valeurs, bah, finalement, a vivoté dans un contexte pourtant très favorable.
Pour les investisseurs, c'est pas évident, bien entendu, ce nouveau contexte, parce que on le sait, vous les rencontrez aussi, ils sont donc en quête de rendement. Qui dit rendement dit risque, dans un contexte, justement, vous venez de le rappeler, où les marchés, notamment américains, ont largement performé. Et donc, il y a aujourd'hui une vraie question de comment doit évoluer l'allocation d'actifs.
Alors le sujet aujourd'hui, c'est une confiance dans l'économie mondiale parce que les chiffres sont là, on a une croissance économique mondiale au-dessus de 3,5%, donc entre 3,5% et 4%. Une visibilité quand même sur cette croissance qui est assez sereine, au-delà de la croissance potentielle. Mécaniquement, on a des créations d'emplois, donc il y a un effet consommation qui est plutôt favorable. C'est comment gérer ce ralentissement à venir, parce qu'on arrive en fin de cycle, où est donné un moteur à un nouvel investissement. Et ça pourrait justifier des valorisations. Donc aujourd'hui, on est dans ces incertitudes-là. Il y a des secteurs qui ont été délaissés, qui sont les secteurs industriels. Donc peut-être si les négociations commerciales commencent à prendre une tournure plus favorable, et justement on attend les élections de mi-mandat aux États-Unis, donc le début novembre, à partir de là, bah on pourrait avoir peut-être un espoir de se dire ces valorisations correspondent finalement à une vigueur économique mondiale retrouvée.
Vous parliez de divergence des banques centrales, on pourrait dire qu'il y en a une autre entre les entreprises américaines et les entreprises européennes, les européennes qui investissent apparemment et les américaines qui, elles, font des rachats d'actions par pas trillions de dollars, mais pas loin.
Pas loin, mais écoutez, vous avez vu, il y a eu quand même aux États-Unis, il faut le rappeler, le stimulus fiscal de l'administration Trump. Et donc, une amnistie fiscale pour des trésoreries que les grands groupes, Apple, Google, avaient à l'extérieur des États-Unis. Et ils se sont servis de cet argent pour racheter leurs actions et les annuler et n'ont pas investi dans l'économie américaine. Et effectivement, c'était des rachats d'actions de l'ordre de 50 milliards de dollars. Donc ce sont des sommes gigantesques, sans réinvestissement mécanique dans l'économie américaine, mais juste pour préserver un effet richesse des marchés américains.
Voilà, donc il y a une vraie différence de ce côté-là. Pour l'investisseur, au final, il aura sans doute la diversification, mais il y a quand même, voilà, vous avez rappelé qu'il y a quand même un certain nombre de risques aujourd'hui.
Absolument. Donc, et puis on regarde que cette diversification qui par le passé était finalement très protectrice, cette année, si vous n'étiez pas sur le luxe ou sur les GAFA, hein, pour utiliser l'acronyme habituel pour les valeurs technologiques américaines, vous étiez un petit peu loin des performances boursières, puisque tous les indices, hormis le CAC 40, ont des performances négatives, y compris dividendes réinvestis.
Mais merci Laurent Géronimi d'avoir fait le point avec nous.
Merci.